Un air d'actu avec Serge Carrel.
Voilà 10 ans, l'Alliance évangélique mondiale ouvrait un bureau à l'ONU à Genève. Il s'agissait notamment de donner une voix aux évangéliques auprès du Conseil des droits de l'homme. Bilan de ces 10 ans avec Michael Mützner, le représentant permanent des évangéliques à l'ONU sur Genève. Michael Mützner, bienvenue.
Bonjour.
Alors, avant d'aborder la question de ces 10 ans de votre présence comme représentant permanent de l'Alliance évangélique mondiale auprès de l'ONU dans la cité de Calvin, je vous propose un petit détour autour d'une nouvelle sur la liberté religieuse qui concerne le canton de Genève, un dossier que vous aviez suivi en son temps lorsque vous étiez secrétaire général adjoint du réseau évangélique. Alors, cette nouvelle est tombée entre avant-hier et hier. Le tribunal fédéral vient de retoquer une partie de la loi sur la laïcité genevoise qui prévoyait que les manifestations culturelles, alors c'est compliqué, mais que ces manifestations culturelles ne pouvaient être autorisées qu'à titre exceptionnel sur le domaine public. Est-ce qu'il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les évangéliques genevois, Michael Mützner?
Je pense que c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour les évangéliques genevois, mais pour toutes les personnes qui sont attachées aux droits de l'homme et aux libertés individuelles. Donc c'est une bonne décision pour la société en général et aussi l'ensemble des courants religieux qui reçoivent un message aussi de tolérance et d'accueil. C'est un message en fait qui reconnaît le pluralisme religieux aussi qui est présent à Genève et qui a le droit de s'exprimer, qui n'a pas besoin de se cacher et de ne pas exister sur l'espace public. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est un message de tolérance de manière générale qui est envoyé là par le tribunal fédéral.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les évangéliques genevois ?
Concrètement, je dirais que ça bétonne ou ça renforce la liberté qu'ont les courants évangéliques et les courants religieux de manière générale de pouvoir organiser, de pouvoir demander à organiser des célébrations religieuses dans l'espace public, comme par exemple des baptêmes ou d'autres choses au bord du lac ou comme ça. Donc la loi disait actuellement que à titre exceptionnel, quelque part au bon vouloir de l'État, on pouvait avoir ces autorisations-là, mais qu'on c'était pas vraiment clair que c'était un droit qu'on pouvait exiger. Et là, le tribunal fédéral dit qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment les célébrations religieuses de tout autre événement public, c'est-à-dire que tous ces événements sont soumis à un régime d'autorisation. On va pas voir apparaître des célébrations religieuses à tort et à travers de manière chaotique. Il faudra demander une autorisation et l'obtenir, mais ces demandes seront traitées au même titre que toute autre demande, par exemple pour un événement culturel ou autre chose, qui me paraît tout à fait légitime. Il n'y a pas de raison de traiter différemment un événement culturel, donc une célébration religieuse, d'autres types d'événements. Comment est-ce que l'État peut décider ou définir ce qui est cultuel et culturel, c'est même un petit peu compliqué, je trouve.
Oui, il y a eu quelques remarques un peu acerbes de certains représentants d'ensemble à gauche qui disaient qu'il faudrait être théologien pour arriver à opérer ce distinguo.
Oui, voilà, c'est ça. Si je prends par exemple un concert de gospel, c'est un concert de louanges finalement, on peut même y intégrer un temps de prière par exemple. Alors est-ce que c'est un événement culturel ou cultuel ? On sent bien que dans la pratique, la ligne serait même pas si évidente à tracer.
Donc là, concrètement, ça veut dire que des baptêmes, moyennant autorisation, bien entendu, mais pourront être célébrés dans la rade, que finalement des cultes pourraient même être envisagés devant le mur des réformateurs, par exemple.
Oui, voilà. En tout cas, c'est des demandes qui peuvent être faites et l'État devrait raisonnablement accorder, dans la mesure du possible, ces autorisations. Tout à fait. Alors, je pense qu'avant la décision du tribunal fédéral, ces choses-là étaient également possibles. Donc, dans la pratique, on pouvait déjà demander, et nous-mêmes, le réseau évangélique de Genève et moi-même, j'avais aussi participé à un recours justement pour clarifier cette situation. Et la Cour constitutionnelle genevoise avait déjà dit que ce à titre exceptionnel qui est dans la loi sur ou qui était dans la loi sur la laïcité de l'État à Genève devait être interprété de manière généreuse. Donc on était déjà confiant et dans la pratique on obtenait déjà des autorisations si c'était nécessaire. Donc je dirais que cette décision du tribunal fédéral plutôt pour la pratique, c'est une confirmation de la pratique, ça bétonne la pratique actuelle et ça nous assure à long terme aussi que cette loi ne soit pas tout d'un coup interprétée de manière restrictive.
Est-ce que ça veut dire concrètement que finalement entre Genève, ses autorités et le tribunal fédéral, il y a deux visions différentes de la laïcité qui prévalent ?
Oui, en tout cas, dans la loi sur la laïcité de l'État genevoise, je dirais, il y avait un mélange. Il y avait des choses qui traitaient plutôt d'une laïcité positive. L'État envisageait, par exemple, d'établir des relations dans cette loi. Elle envisage d'établir des relations avec les communautés religieuses, qui est plutôt une laïcité positive, de dialogue. Il y avait d'autres choses qui étaient à signaler. Mais par contre, dans d'autres points, notamment ce point de l'espace public, mais aussi, par exemple, l'interdiction qui était faite aux représentants dans les instances législatives de porter un signe religieux. Là, on était clairement dans une laïcité qui voulait éliminer les symboles ou la présence de marqueurs religieux de l'espace public. Et donc là, on allait trop loin dans une laïcité de type justement agressive, dogmatique. Et je suis content que le tribunal fédéral ait rappelé que les droits de l'homme, et tels qu'on les comprend en Suisse, c'est des droits de l'homme et c'est une liberté religieuse où la laïcité ne peut pas exclure le phénomène religieux de la vie publique, mais doit l'accueillir dans un esprit de tolérance.
Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de revers d'importance pour les autorités cantonales genevoises qui ont finalement fait voter cette loi par les citoyens et qui par la suite doivent quelque part la retoucher, en tout cas pour une partie la retoquer?
Oui, alors c'est un revers. Sur un point, en fait, le Conseil d'État genevois ne souhaitait pas aller aussi loin que l'est allé le Grand Conseil, c'est-à-dire que sur le point de l'habillement des députés, le Conseil d'État estimait que la loi allait trop loin. Ça, c'était une demande du Grand Conseil. Donc là-dessus, ça les a pas dérangés que la Cour constitutionnelle genevoise modifie ce point-là. Finalement, ça allait dans leur sens. Par contre, la décision du tribunal fédéral, je pense, doit être une surprise pour eux. En tout cas, ils n'avaient pas forcément évalué que cette autorisation à titre exceptionnel serait considérée comme contraire à la liberté religieuse. Donc oui, là, c'est une forme de remise à l'ordre qui est opérée par le tribunal fédéral envers les autorités exécutives genevoises.
Est-ce qu'il y a aussi là une leçon pour les évangéliques? Parce que vous aviez dans un premier temps fait recours, et puis après, au final, vous avez quelque part laissé une association musulmane, la Ligue musulmane genevoise pour la paix confessionnelle, faire recours auprès du tribunal fédéral. Est-ce que vous avez sous-estimé l'ampleur de la liberté religieuse qui était possible d'exercer en Suisse ?
Non, je pense pas, puisqu'on a déjà été, on a déjà fait recours contre la loi nous-mêmes jusqu'au niveau de la constitutionnelle genevoise, et on a obtenu déjà gain de cause en quelque sorte, puisque la Cour constitutionnelle genevoise a dit la loi. En gros, elle a dit la loi, elle est limite dans la manière dont elle est formulée, mais si le gouvernement l'interprète de manière généreuse, ça passe. Et le tribunal fédéral est allé encore un petit pas plus loin en disant non seulement elle doit interpréter cette loi de manière généreuse, mais même en fait le libellé de la loi doit être révisé. Elle a dit qu'il fallait biffer ce à titre exceptionnel. Donc oui, peut-être qu'on a manqué un tout petit peu d'optimisme et qu'on aurait pu encore aller plus loin, mais je dirais qu'on était déjà relativement satisfait de la première instance. Mais on est reconnaissant pour l'association qui a conduit ce recours encore un peu plus loin et qui a encore confirmé et même renforcé la décision cantonale. Je note que c'est quand même le troisième revers pour le canton de Genève dans ces récentes dernières années.
Sur cette question-là.
Pour la ville. Oui, sur ces questions-là, parce que, en tout cas, sur les questions de liberté religieuse, en début d'année, le canton a subi un revers sur la question du Covid et de l'interdiction des rassemblements religieux pendant un temps de confinement. Donc, les rassemblements religieux étaient pendant, il y a un peu plus d'un an, complètement interdits à un moment donné. Et donc, là, il y a eu un recours où le canton a perdu. Il y a eu ces différents recours dont on parle aujourd'hui. aujourd'hui. Un peu plus tôt, il y a eu un recours sur qui a contesté une interdiction des stands d'évangélisation, des stands religieux dans les rues genevoises, et ça concernait la ville de Genève. Donc on voit que de manière cohérente, la liberté religieuse reste un droit fondamental, et il y a comme un rappel à l'ordre pour dire attention, c'est un droit auquel il faut pas toucher n'importe comment, et qui reste à protéger, qui garde une place importante dans l'attirail des droits de l'homme. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Donc finalement, ça voudrait dire parfois que dans les milieux évangéliques, on manque un peu d'audace pour revendiquer davantage de liberté religieuse en Suisse ?
Oui, je crois que d'une part, il ne faut pas oublier qu'on a la chance de vivre dans un état de droit où il y a un pouvoir judiciaire qui fonctionne, on le voit encore une fois maintenant, et donc il faut parfois avoir le courage de faire recours à ce pouvoir judiciaire lorsque les autorités exécutives oublient peut-être de respecter la liberté religieuse, et je crois que voilà, on a la liberté religieuse qui est là, et il ne faut pas hésiter à la faire valoir lorsqu'elle n'est pas respectée, effectivement, y compris en tant qu'évangélique, en tant que minorité religieuse. C'est la beauté du système des droits de l'homme, c'est que finalement, il sert quand même beaucoup aussi à défendre des groupes minoritaires qui peuvent du coup faire valoir leurs droits de cette manière-là.
Alors avant de parler, Michael Mutzner, des 10 ans de l'Alliance évangélique mondiale à l'ONU à Genève, nous voulons écouter Présence de la Chapelle Musique, un groupe qui nous vient du Québec.
Tu es ma force. Ouh, 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 yeah. Qui est semblable à toi? Tu es redoutable, tu es incomparable. Mais ta voix, non, rien ne pourrait remplacer ta présence, non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir, près de toi. Marche avec moi, tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence.
Vous écoutez Radio R, un air d'actu. Nous sommes aujourd'hui avec Michael Mutzner. Alors Michael, si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est que cette année, vous fêtez les 10 ans de l'ouverture d'une représentation permanente des évangéliques aux Nations Unies à Genève. Alors en quoi est-ce important pour vous de marquer cet événement ?
Alors cet événement pour nous, c'est d'abord la reconnaissance d'avoir ce bureau qui a commencé effectivement il y a exactement 10 ans avec de petits moyens, avoir tenu en fait 10 ans, exister encore aujourd'hui et avoir pu au cours de ces 10 ans établir une voix des évangéliques à l'ONU. C'était une voix qui était trop souvent absente, qui manquait au sein du Concert des Nations. Et depuis lors, régulièrement, eh bien, les diplomates, les instances onusiennes sont informés des préoccupations des évangéliques à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose dont nous sommes très reconnaissants et fiers.
Concrètement, comment est-ce qu'est née cette idée de représentation évangélique à l'ONU à Genève ?
C'est lié tout d'abord un petit peu à mon histoire personnelle. J'ai eu l'occasion de travailler pour d'autres organisations, un temps stagiaire au sein de la diplomatie suisse, puis au sein d'une autre ONG, et de participer aux travaux des instances, des mécanismes de droits de l'homme de l'ONU.
Oui, vous avez travaillé notamment pour les franciscains hein, au niveau international,
oui,
c'est ça ?
Exactement, j'ai travaillé pour une association catholique, Franciscans International, entre autres. Et là, j'ai participé notamment au Conseil des droits de l'homme, et je constatais que un certain nombre d'organisations ou de communautés religieuses étaient bien organisées, bien présentes, et je voyais aussi leur capacité à avoir de l'influence, à faire connaître leur situation. Et je constatais aussi que les évangéliques étaient là relativement absents. Donc c'est quelque chose qui m'a préoccupé. Et suite à des discussions avec, d'une part, l'Alliance évangélique mondiale et son alliance nationale en Suisse, le réseau évangélique suisse, nous avons pu commencer à établir exactement il y a 10 ans, donc en janvier 2012, un bureau où j'ai commencé moi-même à 20% avec un collaborateur bénévole, et petit à petit nous avons pu établir une présence et avoir les moyens nécessaires pour embaucher un petit peu de personnel. Et alors, ça a été possible surtout grâce aussi à des organisations suisses au départ qui ont compris l'importance de ce bureau.
Et qui vous ont financé.
Voilà, qui nous ont financé des fondations suisses évangéliques ou des ONG suisses évangéliques, oui.
Alors, pratiquement, quand on vous entend bureau permanent auprès de l'ONU, on se demande ce qu'un évangélique peut faire dans un tel contexte. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre quotidien?
Notre quotidien, en fait, notre travail, c'est d'être un relais de nos alliances nationales et de faire part de ce qu'elles vivent, de ce qu'elles voient sur le terrain et de le transmettre au niveau international. Et vice-versa, de faire connaître à notre base les occasions qui se présentent pour elles de prendre part aux mécanismes internationaux où il existe un certain nombre d'opportunités. Donc, on fait un monitoring, on suit l'actualité des mécanismes onusiens, et quand un pays, par exemple, a son examen à l'ONU ou est à l'ordre du jour, on va informer notre base et on va...
Expliquez-nous, vous parlez d'examen, c'est donc l'examen périodique en matière de droits humains.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un des mécanismes avec lequel on travaille souvent, l'examen périodique universel. En fait, tous les États membres de l'ONU, tous les 5 ans, passent un grand examen où leur situation générale des droits de l'homme est examinée par les autres États membres de l'ONU. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons la possibilité de soumettre un rapport pour faire le point aussi sur la situation des droits de l'homme. Et là, on travaille parfois en coalition aussi avec d'autres ONG ou parfois simplement avec notre alliance membre à faire part de l'évolution de la situation des droits de l'homme de notre point de vue sur les 5 dernières années dans tel ou tel pays. Et souvent, mais pas seulement, souvent, je dirais dans 80% des cas, la préoccupation de nos membres touche à leur liberté religieuse. Et donc ça, c'est souvent les thématiques qu'on soulève auprès de l'ONU.
Prenons un cas concret pour illustrer cela, Michael Mutzner, le cas de l'Algérie. Est-ce que par rapport à cette situation que l'on connaît bien ici en Suisse, avec des fermetures d'églises protestantes, d'églises évangéliques sur place, est-ce que finalement vous parvenez à faire quelque chose ?
Oui, on parvient à faire quelque chose. Effectivement, en Algérie, comme vous le dites, il y a actuellement 16 églises qui sont fermées. C'est une situation qui dure maintenant depuis 3-4 années, je dirais. Et donc, nous alertons les mécanismes onusiens de cette situation de manière régulière. Nous les tenons informés. Ces mécanismes, à leur tour, demandent des comptes à l'Algérie. Donc, ces informations sont ensuite reprises par d'autres acteurs. Donc, ce n'est plus seulement nous qui faisons ces informations, mais comme elles sont jugées crédibles, eh bien, le rapporteur spécial de l'ONU, par exemple, contacte l'Algérie et leur demande des comptes sur ces églises qui sont fermées, ou encore le Comité des droits de l'homme, etc. Et donc, ça envoie le message à l'Algérie que ce qu'elle fait aux églises évangéliques, eh bien, ça ne passe pas inaperçu. Et c'est toujours difficile d'évaluer l'impact de notre travail, mais nous estimons que sans cette attention-là, il est possible qu'encore plus d'églises n'aient été fermées dans un pays comme en Algérie. Donc cette attention ou cette pression, en tout cas, joue un rôle auprès de ces gouvernements.
Alors, cette année, vous marquez un anniversaire, c'est 10 ans de votre présence à l'ONU. Si vous aviez, en quelques mots, à esquisser les moments phares de ces 10 années, qu'est-ce que vous mettriez en avant?
Pour moi, je dirais ce qui me réjouit le plus, c'est presque la continuité de ce travail, sa régularité, parce que finalement, comme le disait récemment un fonctionnaire de l'ONU dans une réunion où nous étions présents, il disait la force de votre travail, c'est de répéter de manière régulière un message. C'est comme un clou qu'on enfonce petit à petit. Il y a rarement un moment décisif, mais c'est plutôt une accumulation de rapports, de déclarations, etc., qui sont faites, qui vont avoir un impact. Et ce dont je suis reconnaissant, c'est de voir que notre représentation à l'ONU, aujourd'hui, elle est reconnue, elle est considérée comme crédible, et donc que ce soit les instances onusiennes, les diplomates, etc., eh bien, ces organisations ou ces personnes viennent aussi vers nous quand elles veulent savoir quelle est la situation des évangéliques dans tel ou tel pays. Et donc, je pense qu'on a, au cours de 6-10 ans, acquis une certaine crédibilité. Après, ce qui ressort pour moi au niveau personnel, peut-être un temps fort pour moi, ça a été, je pense, la collaboration avec la plateforme interreligieuse en République centrafricaine, qui est constituée du président de notre alliance membre, l'Alliance évangélique en Centrafrique, et également le cardinal donc qui représente l'Église catholique et l'imam qui représente les musulmans dans ce pays-là. Ça a été tant au niveau des personnes rencontrées que de la collaboration, pour moi, un temps fort. C'est une collaboration qui s'est étendue sur pratiquement tous ces 10 ans. Et où on a pu aussi contribuer à donner une visibilité au travail de cette plateforme en valorisant aussi leurs efforts en faveur de la paix, des droits de l'homme, du respect, de la tolérance religieuse, notamment les nommant pour certains prix internationaux qu'ils ont aussi obtenus. Et donc ça a été, au niveau personnel, je dirais un temps fort, ce sont des personnes qui m'ont aussi beaucoup inspiré.
Est-ce que cet engagement que vous avez dans le cadre des Nations Unies à Genève a un impact sur la Suisse ?
Oui, on a eu l'occasion de travailler aussi sur des rapports en lien avec la Suisse. Lors de l'examen périodique universel de la Suisse, nous avons soumis notamment il y a quelques années un rapport sur la traite des personnes. Donc voilà, la traite des personnes. Et à ce moment-là, c'est arrivé sur un terrain favorable au moment où la ministre de la Justice de l'époque, Madame Somaruga, était aussi ouverte à mettre en place un plan d'action national. Et donc notre travail et les recommandations ensuite de l'ONU qui ont été émises à la Suisse ont contribué à ce que la Suisse mette sur pied le premier plan national d'action de lutte contre la traite. Et d'ailleurs, la ministre était ensuite venue présenter ce plan d'action lors d'une conférence Stop Pauvreté, donc qui est liée aussi, qui est une campagne de sensibilisation liée au réseau évangélique suisse. Donc ça, c'était un temps fort et on était reconnaissant de voir que notre rapport avait contribué à la mise en place, au renforcement en tout cas d'une politique de lutte contre la traite en Suisse.
Michael Münzner, est-ce qu'aujourd'hui il y a un pays qui vous fait particulièrement souci ?
C'est une bonne question. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui nous font souci, et donc on travaille sur un certain nombre de pays. Et je dirais que on est souvent amené à répondre à des situations urgentes. Ça, c'est une partie de notre travail. Et l'autre partie, c'est lié à l'agenda de l'ONU. Donc, les situations urgentes qui émergent, ben, vous avez mentionné, par exemple, l'Algérie. Il y a d'autres situations qu'on suit de manière régulière. C'est pas toujours évident d'en parler tant qu'elles sont pas publiques. Mais voilà, tout récemment encore, l'Alliance évangélique mondiale a exprimé, par exemple, sa préoccupation au sujet du Kazakhstan et des violences qui ont eu lieu ces dernières semaines, en appelant aussi à une désescalade de la violence. C'est important, je pense, qu'une instance représentative des évangéliques envoie un message apaisant. Dans un contexte parfois international ou politique où la voix des évangéliques peut être instrumentalisée à des fins politiques, l'Alliance évangélique mondiale, qui est indépendante, donne parfois un autre visage, et surtout un visage, je dirais, qui est non lié à un message politique, mais qui est lié à nos valeurs et qui rappelle, qui donne une voix représentative, je dirais, des évangéliques sur certains thèmes ou certaines situations internationales importantes.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Michael Münzner, hein, vous avez été la cheville ouvrière, en tout cas l'une des, mais la principale cheville ouvrière de la mise en place de cette permanence des évangéliques à l'ONU à Genève. Qu'est-ce qui motive votre engagement dans une telle perspective ?
Ce qui me motive, je pense, d'une part, c'est vraiment que, de manière générale, les évangéliques puissent être entendus. Cette voix-là manquait à l'ONU, et c'est quelque chose que je suis reconnaissant qu'aujourd'hui ça soit le cas. Les évangéliques sont présents à l'ONU, et ça, c'est pour moi, c'est le principal succès. À titre personnel, je dirais que mon désir, ça a toujours été de servir Dieu, hein, c'est lié à ma foi, et d'être utile. Je voulais pas que mes choix de carrière ou mes projets soient liés à un accomplissement purement personnel. J'aurais trouvé ça vide de sens.
Mais vous n'avez pas fait du pastorat, vous ne vous êtes pas engagé dans une carrière missionnaire, vous avez fait du droit et une solide formation juridique.
Oui, c'est ça, parce que ce que j'ai eu à cœur et là où j'ai vu aussi un besoin, c'est dans l'interstice, dans le trait d'union entre Église et société. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, ou entre Église et politique, on pourrait dire. Et donc, c'est un petit peu le fil rouge de mon travail. Ça a été d'une part d'essayer de formuler de manière claire les besoins ou les revendications de l'Église évangélique vis-à-vis des autorités, nos positions, etc., essayer de les faire comprendre, et de l'autre, parfois aussi, d'aider l'Église à interagir de manière constructive avec l'État et de recevoir, de comprendre aussi les dynamiques politiques en cours. Je crois que on critique beaucoup et facilement les institutions politiques, mais en réalité, on a besoin des institutions politiques. La Bible nous invite à les respecter, à prier pour elles, et je crois qu'elles ont vraiment une fonction importante, même si on n'est pas toujours d'accord avec tout ce qu'elles font. Elles ont une fonction importante pour limiter les effets du mal. Si elles n'étaient pas là, ce serait le chaos. Et je crois qu'elles ont un rôle important aussi pour favoriser le bien commun, et c'est notre responsabilité, c'est ce que je crois, c'est ma vocation aussi, c'est de les soutenir en leur faisant des propositions, en leur montrant notre point de vue de manière constructive, c'est de les soutenir dans cette vocation qu'ils ont.
Alors concrètement, ce que vous nous dites là, c'est que finalement, ce dialogue avec des instances étatiques, qu'elles soient au niveau cantonal, fédéral ou même international, pour les évangéliques, aujourd'hui, est quelque chose d'important à développer et à poursuivre.
Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est fondamental. C'est notre rôle. On utilise parfois l'expression d'une part d'être sel et lumière. Donc, je crois que c'est notre rôle aussi d'avoir un apport positif, un témoignage positif, et de nous engager pas seulement pour un groupe ou un intérêt particulier, mais pour le bien commun. Ça, c'est notre rôle, je crois, avec le souci que nous avons. Voilà, je crois que c'est important de continuer de s'engager auprès de ces instances, et aussi de s'engager en aidant ou en supportant les autorités dans le rôle qui leur est confié, qui n'est pas toujours simple.
Michael Münzner, merci beaucoup d'être venu dans Un air d'actu sur Radio Air aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le représentant permanent des évangéliques à l'ONU à Genève. Bonne journée à vous.
Merci et bonne journée à vous aussi.
Merci à Erol d'avoir assuré la technique de cette émission. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou une autre, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site radio-air.ch ou alors de vous abonner à notre lettre de nouvelles et vous recevrez une fois par semaine toute une série d'informations sur ce qui a été produit par notre équipe. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.